Et bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre sur Europe 1. Il est maintenant midi et demi, l'heure du journal de la mi-journée présenté par Axel May. Bonjour Axel.
Bonjour Marlène, bonjour à toutes et à tous.
Avec le corona et tout, je crois qu'il vaut mieux rester dans sa bulle en voiture que de prendre le transport en commun en fait.
La journée chargée sur les routes, nous retrouverons dès le début de ce journal Marion Gauthier depuis une aire d'autoroute sur l'A10. Et à 12h45, l'invité sera Anne Levaux, déléguée générale de la prévention routière, qui met justement en garde les automobilistes peu habitués à prendre leur voiture pour de longs trajets. Jean Castex a réuni en séminaire ses ministres ce matin à Paris et le porte-parole du gouvernement s'est exprimé il y a quelques minutes.
L'efficacité, ça n'est pas seulement d'aller vite, c'est aussi d'embarquer du monde autour de soi pour que très concrètement, ce qui est décidé à Paris se mette en œuvre dans les territoires de manière très concrète.
L'état d'urgence sanitaire a pris fin cette nuit. Mais ce n'est pas encore un retour à la normale. L'éducation nationale, par exemple, prévoit une rentrée particulière. L'hommage à la gendarme tuée par un chauffard il y a une semaine, une marche blanche est prévue cet après-midi dans le Lot et Garonne, où elle était en poste.
Ce sera vraiment un moment émouvant. De voir ce soutien de cette population qu'on jure de servir au cours de notre carrière.
À l'étranger, le président Erdogan retransforme l'ancienne basilique Sainte-Sophie en mosquée. Décryptage à suivre. La météo, ce sera avec Valérie Darmon qui nous annoncera un retour progressif du beau temps. Et puis chaque week-end avant 13h, la chronique de Roland Pérez sur les arnaques à éviter pendant vos vacances et comment résoudre vos litiges.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Il fait beau, c'est l'été, et en ce week-end prolongé du 14 juillet, il y a du monde sur les routes. Comme vous le constatez depuis ce matin, Marion Gauthier, vous êtes sur l'autoroute Paris-Bordeaux, l'A10, positionnée sur une aire de repos un peu avant la barrière, l'immense barrière de péage de Saint-Arnoult. Et malgré le trafic intense, vous avez rencontré des automobilistes, évidemment contents de partir en vacances.
Oui, les voitures défilent ici, les sourires aussi. Les chapeaux de soleil sont déjà sortis pour la pause déjeuner. Les conducteurs se dégourdissent les jambes. Reste plus de 500 km à Véronique et sa fille France, soulagés d'avoir pu quitter leur Belgique.
Ça fait quand même plusieurs mois qu'on se dit vivement le mois de juillet, qu'on puisse partir. Puis il fait beau, on a envie déjà d'y être.
On aime bien chanter.
T'avais chanté au Daniel Balavoine.
Oui, au moment où je pensais chanter, c'est le micro.
Il faut passer le temps, indispensable, car dès 7h, le trafic était ralenti, mais maintenant les bouchons s'allongent et Frédéric a besoin de souffler.
Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas passé par Paris et je crois bien que je n'y passerai plus, parce que c'est une catastrophe.
Mais une attente d'autant plus pénible que les vacances ont été difficiles à organiser. Séjour en Égypte et en Turquie annulés pour Anya et Yves, qui ont reporté toutes leurs attentes sur le sud de la France.
Deux voitures parce qu'on a trois grands-enfants et on a trop de bagages.
Avec le corona et tout, je crois qu'il vaut mieux rester dans sa bulle en voiture que de prendre le transport en commun en fait. On oublie les problèmes et on profite des vacances.
Mais si les masques ne cachent pas tous les visages, nombreux sont les voyageurs qui emportent bouteilles de gel hydroalcoolique à la main et la conscience qu'il faudra respecter quelques règles pendant ces vacances.
Marion Gauthier depuis l'aire de repos de Limours-Janvry sur l'autoroute A10 et après 12h45, notre invitée sera donc Anne Levaux, déléguée générale de la prévention routière. Pendant ce temps-là, à Paris, le nouveau gouvernement dirigé par Jean Castex s'est réuni en séminaire ce matin. Claudia Bertram, un séminaire, pourquoi faire ?
Eh bien, c'est une tradition depuis le début du quinquennat, tradition que perpétue donc Jean Castex avec sa nouvelle équipe gouvernementale. L'objectif ce matin, c'était de fixer le calendrier des réformes à venir, de faire un point sur les dossiers en cours pour que tous les ministres accordent leur violon. C'était aussi l'occasion de faire un point sur la méthode Castex, celle du dialogue et de la concertation avec les élus locaux, les syndicats, les entreprises et les associations, comme l'explique à l'issue de ces 3 heures de séminaire Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement.
L'efficacité, ça n'est pas seulement d'aller vite, c'est aussi d'embarquer du monde autour de soi pour avancer et pour que très concrètement, ce qui est décidé à Paris se mette en œuvre dans les territoires de manière très concrète.
Et pour cela, notamment, le nombre de collaborateurs ministériels va augmenter. Et en ce moment même, le Premier ministre reçoit à Matignon les associations d'élus locaux pour un premier contact.
Et Jean Castex, merci à vous hein, Claudia Bertrand, mais Jean Castex va ensuite s'envoler pour la Guyane où le coronavirus circule intensément. Il sera sur place demain. D'ailleurs, dans ce département d'outre-mer, hein, l'état d'urgence sanitaire est toujours d'actualité, tout comme sur l'île de Mayotte dans l'océan Indien. État d'urgence qui, partout ailleurs, a pris fin cette nuit. Mais cela ne signifie pas pour autant un retour à la normale. Les autorités peuvent restreindre les déplacements si besoin. La trêve hivernale pour les expulsions qui avaient été prolongées est finie. En cas d'arrêt maladie, le délai de carence pour les indemnités fait son retour. En revanche, l'encadrement des prix pour les gels et les solutions hydroalcooliques ainsi que pour les masques à usage unique va finalement être prolongé jusqu'en janvier prochain. Un arrêté publié en ce sens au journal officiel a été publié, donc cet arrêté aujourd'hui. Pas vraiment de changement non plus pour la prochaine rentrée scolaire. Johanna Chabas, le ministère de l'Éducation a publié hier soir une circulaire précisant que cette rentrée se ferait comme en cette fin d'année avec des gestes barrières.
Oui, il faudra respecter les mêmes règles sanitaires qu'en juin, c'est-à-dire se laver les mains régulièrement. Le port du masque sera obligatoire pour les adultes et les enfants de plus de 11 ans, mais seulement si les distances de sécurité ne peuvent pas être respectées dans des endroits clos comme la salle de classe. Ce protocole très attendu par les parents d'élèves satisfait Hubert Salin, porte-parole de la PEP. Pour lui, le plus important, c'est l'assurance que les cours se feront en présentiel.
Parce que l'école, c'est quand même du face-à-face. Hein. C'est le professeur qui regarde l'élève, qui voit s'il comprend, qui peut poser une question. Quand on est en virtuel et qu'il y a juste un petit chat pour échanger, c'est quand même pas la même chose. Donc la relation professeur-élève, on n'a rien trouvé de mieux. Et on en a absolument besoin pour la rentrée, surtout après les 6 derniers mois qu'on passe. Donc les élèves devant les professeurs, le plus possible, c'est ce que nous demandons. Et c'est ce qui va se passer.
Et justement, pour lutter contre le décrochage, le gouvernement met en place 1 500 000 heures supplémentaires pour renforcer l'accompagnement personnalisé. Et en cas de deuxième vague ou d'une circulation plus active du virus, le ministère prévoit également un plan pour assurer un enseignement à distance. Il pourra être mis en place nationalement ou seulement dans les régions touchées et sera dévoilé dans quelques jours.
Johanna Chabas du service reportage d'Europe 1. Faut-il pour autant s'inquiéter encore de l'épidémie dans le pays, si dans le monde la pandémie continue à s'étendre? Une grande partie de l'Europe, dont la France, relâche les mesures barrières, on en a parlé. Un peu trop, estime le ministre de la Santé, Olivier Véran, qui appelle à une vigilance au quotidien. Ce matin, sur l'antenne d'Europe 1, le docteur Raphaël Pitti, médiatique, médecin anesthésiste, réanimateur, s'est voulu, lui, rassurant.
Il n'y a plus aucune hospitalisation maintenant depuis 3 mois. En France, même si le virus circule, il n'entraîne pas en tous les cas d'atteinte physique chez les personnes qui nécessitent une prise en charge hospitalière et de réanimation.
En tous les cas, les autorités mettent en garde contre un relâchement des Français. Est-ce que vous craignez, vous, une deuxième vague dès cet été ?
Dès cet été, certainement pas à mon sens. Du fait de la chaleur, du fait des rayons infrarouges, le virus à l'extérieur meurt assez vite. Par contre, on peut craindre à la rentrée en automne. Est-ce que nous avons affaire à un virus saisonnier. Alors là, si c'est le cas, bien évidemment, il y a un risque. Et je pense qu'effectivement, comme toutes les autorités, qu'il faut maintenir les distanciations, les mesures de sécurité, la distanciation sociale. Surtout, il faut les maintenir pour garder cette habitude de vivre avec le virus, de faire en sorte que justement, à l'automne, s'il redevient de fortement pathogène, eh bien justement, nous pouvons faire face.
Le médecin anesthésiste réanimateur Raphaël Pitti au micro de Sébastien Guyot. La pollution de l'air, la France dispose de 6 mois pour durcir son dispositif contre ce fléau responsable de dizaines de milliers de morts chaque année, sous peine d'une astreinte record de 10 millions d'euros par semestre de retard, décision du Conseil d'État. Marche blanche cet après-midi à Aiguillon, près d'Agen, en mémoire de la gendarme renversée par un chauffard. Mélanie Lemay, 25 ans, a été tuée lors d'un contrôle routier il y a une semaine dans le Lot-et-Garonne. Clément Sauveau, de la compagnie départementale d'Agen, la connaissait bien.
Originaire d'Aiguillon moi-même, j'étais très fier de savoir qu'elle participait à la sécurité de la population que je connais bien d'Aiguillon. Je l'ai rencontrée plusieurs fois dans le cadre de nos missions sur le terrain. On est très touché de la sollicitude de la population aiguillonnaise, des élus de tout le département qui sont présents à la Marche Blanche. Ouais, ce sera vraiment un moment émouvant de voir ce soutien de cette population qu'on jure de servir au cours de notre carrière. On est au contact des gens, on se connaît, ils nous connaissent tous, évidemment. Hein, on sait qui est le nouveau gendarme dans ces petits villages. Et tout le monde est peiné, et vraiment peiné et touché de savoir que cette jeune gendarme, qui avait une carrière prometteuse devant elle, est partie si tôt et si jeune.
Clément Sauveau, gendarme de la compagnie départementale d'Agen, au micro de Marion Dubreuil. Dans un instant, Sainte-Sophie va redevenir une mosquée. Décision controversée de la justice turque.
Midi 41, la suite du journal sur Europe 1, Axel May.
La justice turque a annulé hier le statut de musée de l'ancienne basilique byzantine Sainte-Sophie, statut qu'elle avait acquis en 1934. Mais Sainte-Sophie va bel et bien redevenir une mosquée, Jihan Bergaoui.
Oui, et la première prière musulmane aura lieu dans une dizaine de jours, le 24 juillet prochain. Annonce officielle de Recep Tayyip Erdogan. Et dès hier soir, le chef d'État a adressé un message télévisé à la nation. La Turquie s'est débarrassée d'une honte, dit-il. Et Sainte-Sophie vit à nouveau une de ses résurrections. Il affirme que les touristes pourront continuer de visiter le site, mais désormais gratuitement. En perte de vitesse depuis 2015, le président turc cherche ainsi à reconquérir l'électorat musulman. Cette décision politique est d'ailleurs saluée par ses partisans qui se sont recueillis hier soir sur le parvis de l'édifice byzantin. Une annonce qui suscite de nombreuses critiques. Pour le voisin grec, il s'agit d'une provocation. La diplomatie américaine se dit déçue. L'intégrité de ce joyau religieux, architectural et historique doit être préservée, s'inquiète Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères. De son côté, l'UNESCO regrette cette décision prise sans dialogue. Elle pourrait ainsi revoir le statut de l'édifice jusqu'au là inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité.
Jihan Bergaoui, après, à propos donc de cette ancienne basilique Sainte-Sophie d'Istanbul qui va redevenir une mosquée. Les États-Unis menacent de punir la France. L'administration Trump annonce des mesures de rétorsion visant des produits tricolores à hauteur d'$1,3 milliard. Washington met en fait la pression sur Paris après l'instauration d'une taxe sur les géants des hautes technologies aux États-Unis, les GAFA comme on les appelle. Les États-Unis indiquent que ces mesures de rétorsion douanière entreront en vigueur dans 6 mois, si un accord n'est pas trouvé d'ici là avec la France. La France, on y revient, c'est une fierté pour les habitants de Vendée. Le passage du Gois qui permet depuis les années 70 de rejoindre l'île de Noirmoutier au continent. Attention toutefois, pour ne pas avoir de mauvaises surprises, à bien vérifier les horaires des marées. Reportage Charles Guyard.
Même le GPS, on l'adore puisqu'il fait passer les gens qui parlent passage du Gois.
Derrière son comptoir du bar Le 24, Véronique peut compter sur des rabatteurs de premier choix. Le GPS donc, pour guider les futurs clients quasiment sur sa terrasse et la mer qui les contraint à une pause longue durée.
Et comme ils ne l'indiquent pas les heures de marée, et ben, ils sont obligés d'attendre et donc ils viennent chez nous.
En voiture, à vélo ou à pied, ils sont nombreux en effet à attendre de pouvoir emprunter le fameux passage du Gois, ce tronçon d'environ 4 km de la départementale 948 qui relie l'île de Noirmoutier au continent. Marie-Ange est venue de Lyon pour découvrir cette curiosité.
Ben on attend l'heure de la marée et donc on a un laps de temps de 3 heures au total pour faire la traversée.
Et gare à ceux qui ne s'informent pas au préalable des horaires, comme ces 4 promeneurs piégés par la marée montante en début de cette semaine. En attendant le bateau des secours, ils ont heureusement trouvé refuge dans l'un des perchoirs qui jalonnent le parcours tous les 100 mètres environ. De quoi rassurer Céline, Stéphane et leurs enfants, lesquels sont même montés sur l'un d'eux.
On a essayé, ouais. Sont montés dessus, ouais. Pour tester, voilà, comme ça. S'il y a besoin, c'est bon.
Et les curieux viennent de toute la France hein, pour ce passage qui attire aussi des touristes étrangers.
Le passage Gois.
Bertal, lui, arrive de Hollande, ce pays plus bas que le niveau de la mer. Une route submersible, voilà, qui doit lui parler. Noirmoutier, Charles Guyard, Europe 1.
Qu'importe la chaleur, vous êtes bien chez vous grâce au volet roulant Velux, fabriqué en France. Plus d'infos sur velux.fr. Velux vous présente la météo.
Et le temps que nous réserve ce samedi, Valérie Darmon, retour progressif du beau temps.
Effectivement Axel, la perturbation qui a donné de fortes averses orageuses hier en Rhône-Alpes s'évacue enfin et la France passe sous l'influence d'un anticyclone centré en mer d'Irlande. Et c'est à lui qu'on doit le retour d'un temps calme et ensoleillé sur quasi l'ensemble du pays, avec tout de même une limitation des températures, toujours le long de la Manche, mais demain dimanche tout cela s'arrangera. Alors dans le détail, en Bretagne, Normandie, Hauts-de-France, le soleil s'impose rapidement mais le fond de l'air et donc frais, avec des valeurs entre 19 et 23. Des Pays de la Loire, au centre, Val-de-Loire et bassin parisien, la journée est très agréable depuis ce matin, elles veulent rester jusqu'à ce soir. Grand Est, Bourgogne-Franche-Comté, Auvergne-Rhône-Alpes, le ciel est partagé entre soleil et quelques passages nuageux, avec un peu d'instabilité sur les Alpes et partout ailleurs. Le soleil qui brille, et il fait sur la moitié sud, entre 17 et 33 degrés.
Merci Valérie Darmon, et nous vous retrouverons juste avant 13h pour la météo des plages. À suivre, la prévention routière inquiète en ce week-end de grands départs en vacances. Pour éviter les transports en commun, davantage de personnes prennent leur voiture et ne sont pas forcément habituées à conduire.
Il est midi 48, le journal de la mi-journée. La suite avec vous, Axel May.
Et en ce départ de week-end en vacances, eh bien comme souvent, la prévention routière s'inquiète, mais peut-être encore davantage cette année. Anne Lavaux, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes déléguée générale de la prévention routière. Peut-on dire que ce week-end, comme le précédent, enfin comme tous les week-ends qui vont arriver cet été, vous êtes davantage inquiet parce que la prévention routière pense que des personnes qui d'habitude ne prennent pas leur voiture vont prendre leur automobile pour éviter les transports en commun, les transports collectifs, en raison, bien entendu, de la crise sanitaire qui est toujours là.
Alors effectivement, tout à fait. Aujourd'hui, vous savez que bison futé voie rouge. En général, quand bison futé voie rouge, c'est qu'il va falloir s'armer de patience. Et il va falloir s'armer de patience aussi pour ces 80% de Français qui nous ont dit très récemment qu'ils allaient non seulement rester dans l'Hexagone, mais en plus circuler en voiture. Vous savez, et vous l'avez dit tout à l'heure dans votre journal, pour les Français, la voiture, c'est un peu comme un sixième geste barrière. Ils l'associent à tous les gestes barrières qu'on connaît bien et ils se sentent en sécurité quand ils circulent dans leur voiture. Et ce qu'ils nous ont dit aussi, et ça on s'y attendait pas, c'est qu'ils s'apprêtent à circuler surtout sur le réseau secondaire. Ils se sentent finalement, d'un point de vue sanitaire, plus en sécurité s'ils circulent sur les petites routes de campagne. Et effectivement, c'est pas sans nous inquiéter.
Oui, parce que ces routes de campagne, ces routes secondaires, contrairement à ce qu'on pourrait croire, eh bien, sont plus accidentogènes.
Oui, tout à fait. C'est un réseau qui cumule 62% de la mortalité, alors qu'on est en deçà en ce qui concerne le trafic. Par titre de comparaison, sur autoroute, on a à peu près 25% du trafic et on a 8% de la mortalité. Donc le réseau le plus sûr en termes de sécurité routière, c'est l'autoroute. Mais néanmoins, les Français nous disent qu'ils vont choisir ce réseau secondaire pour circuler. Alors, un des messages que notre association veut faire passer, et surtout là, à cette heure-là, puisqu'on est presque à l'heure du déjeuner, c'est que même si on est sur le réseau secondaire, qui est moins aménagé en termes d'air de repos, il ne faut jamais oublier de faire des pauses toutes les 2 heures. C'est très important, il faut se reposer. Et là, la pause principale qui va être celle du déjeuner, on a un autre message à faire passer. C'est que souvent, quand on prend la route, eh bien, on prévoit un pique-nique. Et puis tout à coup, parce que c'est les vacances peut-être, eh bien, dans ce pique-nique, on met des chips, on met du saucisson, on met des boissons gazeuses, sucrées, etc. On met des choses qui sont finalement difficiles à digérer. Et vous n'allez peut-être pas me croire, mais il y a un moment qui est très, très accidentogène en raison de la somnolence. C'est le créneau 13h-15h. Et c'est particulièrement vrai si vous avez pris un repas chargé qui vous empêche de digérer sereinement. Et donc là, vous allez bientôt vous arrêter si vous êtes au volant. Eh bien, allégez votre déjeuner et ça vous évitera la petite somnolence, la petite sieste au volant, qui n'est vraiment pas une bonne idée.
Cela dit, Anne Lavaux, en tant que déléguée générale de la prévention routière, vous évoquiez à l'instant les routes secondaires, mais même sur les autoroutes, il y a des aires d'autoroute qui sont moins ouvertes que d'habitude en raison toujours des gestes barrières.
Oui, tout à fait. C'est vraiment cette année, l'été 2020 ne ressemble à aucun autre été. Je crois que tout le monde sera d'accord. Et c'est vrai aussi pour se déplacer. Et donc, même si les aires sont fermées, il faut s'arrêter dans les aires qui ne sont pas forcément, vous savez, sur l'autoroute, vous avez des aires qui sont juste des aires de repos, qui n'ont pas forcément une station-service, etc. Et celles-ci, elles sont ouvertes. Il faut s'arrêter. Il faut déjà s'arrêter parce que le conducteur a besoin de se reposer. Je rappelle que conduire, c'est la tâche du quotidien qui nécessite le plus d'attention. On doit prendre une décision toutes les 5 secondes. Donc, c'est fatigant de conduire. Il faut s'arrêter. Il faut s'arrêter pour ses passagers aussi. Là, aujourd'hui, dans les voitures, il y a souvent des enfants. Et il faut penser à eux. Au bout de 2 heures, c'est bien qu'ils puissent gambader, qu'ils puissent faire autre chose que d'avoir les yeux rivés sur leurs écrans. Donc, ce temps de pause, c'est vraiment un temps qui est indispensable dans les trajets.
Cela dit, je me permets juste de revenir sur des chiffres. C'était un article de nos confrères du Monde qui rappelait qu'il y a 48 ans, en juillet, on avait eu plus de 18 000 morts et que c'était cette année-là qu'avait été créé le comité interministériel de la sécurité routière. Bien sûr, on est à beaucoup moins de morts, mais votre message aujourd'hui, malgré tout, Anne Lavaux, de la sécurité routière, c'est de dire faites attention, rien n'est acquis.
Absolument rien n'est acquis. C'était 1972, le pic de mortalité. C'était terrible. Mais aujourd'hui, on a encore 9 tués par jour sur les routes de France et 7 fois plus de blessés graves. Donc c'est vraiment quelque chose qui touche tout le monde. C'est un traumatisme, c'est un vrai traumatisme que les gens emportent toute leur vie. Bien sûr, s'ils ont été victimes, mais toutes les familles des victimes. Et on peut l'éviter.
Merci.
Donc, c'est vraiment à faire ensemble.
Merci Anne Lavaux. Et si vous êtes dans votre voiture, vous avez donc écouté particulièrement ces conseils de la déléguée générale de la prévention routière.
Vous écoutez le journal de la mi-journée sur Europe 1. Il est maintenant 12h54, Axel May.
À cette heure-ci, on vous retrouve tout l'été, Roland Pérez, pour faire le point sur les droits des vacanciers, droits qui ont été bouleversés cette année avec le Covid-19, toujours hélas d'actualité. Et je vous propose tout d'abord de faire un point sur les transports en train, les transports en avion. Quelles sont, Roland, les prescriptions sanitaires mises en place pour se déplacer et surtout, en cas d'annulation de vol, que se passe-t-il ?
Alors, train, avion, le port du masque est de rigueur, que ce soit dans les zones de circulation que confiné sur son siège. Sous aucun prétexte, il ne peut être enlevé, alors que les compagnies d'aviation françaises ou étrangères pourront à la fois, via des caméras thermiques ou par prise de température directe, vérifier que le voyageur ne présente pas plus de 38 degrés de température, et certaines pourront même exiger une déclaration de santé. Alors, côté annulation et remboursement, si c'est la compagnie qui est à l'origine de cette annulation, un changement de vol ou de remboursement s'imposera, à moins que le voyageur accepte un bon à valoir, valable 12 mois. Si c'est le voyageur qui souhaite annuler, il vaut mieux attendre de voir si le voyage s'avère impossible en raison de la pandémie qui continue à sévir sur le territoire concerné, car autrement, l'annulation entraînera des frais. Mon conseil est de s'abonner à la plateforme Ariane, mise en place par le site des affaires étrangères, qui renseigne en temps réel sur l'évolution de la pandémie dans le monde, justifiant l'annulation d'un vol aérien et surtout vérifier que l'assurance annulation proposée n'exclut pas les pandémies.
Et concernant, Roland, les réservations d'hôtels ou de maisons de vacances, quid des annulations éventuelles en raison d'une rechute de la pandémie ?
En clair, pour les réservations depuis le déconfinement d'une location de vacances, d'un hôtel, un camping ou une résidence de vacances avec service, le voyageur a la garantie d'être remboursé sans aucune retenue dans l'hypothèse où l'évolution de l'épidémie rendrait impossible le départ en vacances. Certaines agences de voyage vont même plus loin, comme l'ont expliqué les voyagistes dans un communiqué, précisant que dans le cas où le lieu de séjour en France métropolitaine ne serait plus accessible en raison de contraintes sanitaires, ils mettront tout en œuvre pour trouver un nouveau lieu de vacances en accord avec les attentes des voyageurs. Et donc ceux qui se trouveraient dans cette situation cet été, alors qu'aucune offre de substitution ne conviendrait, les voyagistes s'engagent à procéder au remboursement intégral de la totalité des acomptes versés à partir du 15 mai, au titre de ce séjour.
Allez, Roland Pérez, pour terminer, on va prendre juste un petit peu d'avance. Demain, on parlera de quoi ?
On va parler du médiateur du tourisme et des voyages qui est encore très peu connu du grand public.
Merci Roland Pérez.
À demain.
Et maintenant, on va faire un petit tour du côté, avec vous, Valérie Darmon, de la météo des plages.
Et on part sur l'Atlantique avec le très beau temps retrouvé sur la façade ouest et un océan calme entre 17 degrés dans le Finistère sud et 21 sur la côte basque et sur les plages aux alentours de 25-26 degrés, 25 à La Rochelle, 26 à La Cano et 26 également dans les Landes du côté de Mimizan. Voilà qui tranche avec les températures et uniquement les températures parce que du côté du ciel vous restez au soleil le long de la Manche et 18 degrés annoncés sur les plages de Dunkerque, 19 sur les plages de Dieppe et 20 degrés à Perros-Guirec avec une Manche entre 17 et 19 degrés. 19 pour la baie du Mont-Saint-Michel, température de la Méditerranée à 25 degrés sur les Alpes-Maritimes, 19 et elle est agitée à cause du Mistral et de la Tramontane dans les Bouches-du-Rhône. Et sur vos plages de Méditerranée, 34 degrés en moyenne du côté de Hyères par exemple, et 34 aussi au Cap d'Agde dans l'Hérault.
Valérie Darmon.
Et dans un instant, Axel, après le rappel des grands titres de l'info, au cœur de l'histoire, une production Europe 1 Studio avec Jean Descartes qui va nous raconter dans un premier temps comment le baron Haussmann a fait de Paris la ville lumière. Et puis juste après, il évoquera le destin d'une icône du cinéma disparue il y a 30 ans, la divine Greta Garbo. Au cœur de l'histoire, c'est donc de 13h à 14h sur Europe 1.
Europe 1.